Mazal Ancri, une Française judéo-arabe.
En sol majeur, Yasmin Chouaki.
En sol majeur.
Encore une histoire de famille dans les oreilles en sol majeur, mais oui, puisque finalement le genre humain, ce n'est que ça. Alors que le blocus de l'aide humanitaire est imposé depuis le 2 mars dans l'enclave palestinienne par le gouvernement Netanyahou, un livre raconte les piments verts, les tomates, le pain azim, les hommes, le cœur et la boussole de ce cœur d'homme. Trois pays pour un exil, signé Mazal Ancri chez l'Harmattan, évoque un voyage en terre promise en 1996, quelques mois après l'assassinat d'Itzhak Rabin. Voyage et enquête familiale pour revisiter les destins croisés des Haddad, Calvo et Kateb depuis la Tunisie vers Israël et la France. Où l'on apprend au cours de cette cousinade qui porte tellement bien son nom que dans cette famille juive, il peut y avoir un cœur musulman. Bonjour Mazal Ancri.
Bonjour Yasmine.
Vous allez bien ?
Très bien.
Ravie de vous accueillir d'abord avec un chant hébreu que vous avez choisi et dont vous allez nous dire un mot juste après, chanté par un certain Ari Belafonte.
Erev shel shoshanim Nitzella el habustan Ur besamim ulevona Liragelech miftan Shel shoshanim nitz ella el habustan mur besamim ulevona liragelech miftan laila yored leat veruach shoshan nashva Hava el haslach shir balat zemer shel ahava shachar homar yona roshech maletel lalim pich el haboker shoshana ektefenuli Laila yored leat Veruach shoshan nashva Hava el haslach shir balat Zemir shel ahava Erev shel shoshanim Nitz ella el habustan Ur besamim ulevona liragelech miftan.
On est sur RFI et ça s'appelle Une pépite. Ari Belafonte qui chante Erev Shel Shoshanim, donc en hébreu. Est-ce qu'il y a une histoire autour de cette chanson, Mazal Ancri ?
C'est une chanson que... On chantait, quand j'habitais en Tunisie, phonétiquement, sans connaître l'hébreu. L'hébreu, il était très présent, puisque tous les vendredis soirs, il y avait la prière du Shabbat, et il y avait une petite nappe brodée avec des lettres en hébreu. Donc, visuellement, on voyait l'hébreu. Et Erev Shel Shoshanim, donc j'ai su après quel était le sens de cette chanson, qui est en fait un poème autour du rêve d'un pays, de jardins de roses, quelque chose de très, très poétique. Et en réalité, on ne comprenait pas, mais c'était très doux, ce Erev Shel Shoshanim. Le voyage était prévu après la semaine de Pessah. En cette année 1996, 5757 selon le calendrier hébraïque, on ne respectait plus le rituel intégral comme au temps de Tunis. Évacuer le sacrifice du mouton, le méchoué en souvenir de l'ordre de Pharaon de tuer les aînés de chaque famille. Oublier la main qu'on trempait dans le sang et qu'on appliquait sur les murs de la terrasse des grands-parents Haddad. On s'était occidentalisé.
מה אתם אוהבים לאכול עם האצבעות?
אבדולה, אבדולה! לימון, אפון דיפואר מהם. רון סנגל.
לא, זה פסק כפות, זה רונדו כמה זה מוג'ר, זה ביסמילה.
ביסמילה. גסמילה, גסמילה.
לא, פאבק אנג'י, רק בי.
ביסמילה,
ביסמילה.
וואלה, אתה יודע. כס כיבוז הדורי מנשי אביק לידואר.
Moi, je mange beaucoup avec les mains. Je sais quand même me servir de ma fourchette et de mon couteau. J'ai quand même bien appris tout ça. Mais j'avoue que dès que je me lâche, je prends les choses avec les doigts. Quand on fait la kémia, donc, c'est-à-dire beaucoup de petits plats, un peu comme des mezzés libanais ou des tapas aujourd'hui. J'aime bien que ce soit des choses qu'on mange avec les doigts.
Vous êtes né, Mazal Ankri, dans ce Tunis des années 50, à la lisière du quartier juif. Juste pour qu'on réalise, combien de juifs à l'époque en Tunisie ?
Alors, en Tunisie, à cette époque, sur les 3,5 millions d'habitants, il y avait 100 000 juifs. Donc, on était une minorité importante, mais une minorité quand même.
Alors, en tout cas, si on s'arrête sur les années 40, on a une France qui est installée en protectorat à partir de 1881. La guerre va arriver, le nazisme va arriver et une société extrêmement hiérarchisée.
En fait, c'était quelque chose d'établi. On pourrait dire que c'était comme un millefeuille, avec en haut du millefeuille les Français, catholiques bien sûr, et en bas du millefeuille, la couche inférieure, c'était les Arabes tunisiens. Sous les Français, c'était les Italiens, de Maltais, de Siciliens à Tunis, qui étaient également catholiques. Et entre les Italiens catholiques et les Arabes tunisiens, il y avait les Juifs. Mais même chez les Juifs, il y avait deux catégories. Il y avait les Juifs occidentaux, qu'on appelait les Grana. Les Grana, c'était des Juifs qui avaient fui l'Inquisition au XVe siècle, dont certains avaient échoué, on va dire, à Florence, en Toscane.
Donc ils venaient d'Espagne.
Ils venaient d'Espagne et du Portugal. Ils sont arrivés par des chemins complexes en Toscane. Et là, ils ont été très protégés par le duc de Toscane. Et donc, à la fin du XVe siècle, au XVIe et XVIIe siècle, certains de ces juifs toscans, les Granas, sont partis en Tunisie. Eux, ils faisaient partie de la couche supérieure.
Donc il y a les Granas.
Les Granas. L'autre catégorie qui était donc en dessous des Granas, mais quand même au-dessus des Arabes tunisiens, c'était les Juifs Twansa. Ce sont les Juifs qui sont les Juifs orientaux. Leur arrivée remonte à la destruction du premier temple de Salomon, donc avant l'ère chrétienne, ou juste après. Enfin, il y a tout un mouvement migratoire à ce moment-là qui a abouti à ce que des tribus juives s'installent en Libye, en Tunisie, en Kabylie aussi.
Donc en Algérie.
En Algérie et bon, dans tout le Maghreb. Et voilà.
Et alors votre famille?
Ma famille, c'est un beau melting pot. Donc c'est moitié Grana, moitié Twansa. Mais même nos Granas chez nous étaient des gens modestes économiquement.
Mais est-ce qu'on peut dire que les juifs de cette période-là, en Tunisie, j'y reviens, prise entre plusieurs mondes, visiblement, apprécie malgré tout les Français?
Ah oui, bien sûr, parce qu'en fait, en Tunisie, il y a toujours eu des éruptions d'antisémitisme. Et quand les Français sont arrivés à instaurer leur protectorat, en fait, ils ont supprimé la DIMA. Alors la DIMA, c'était le code juridique qui avait été instauré par l'Empire ottoman sur toutes les populations non musulmanes. C'était à la fois discriminatoire et protecteur.
Donc c'est un impôt pour être protégé.
un impôt et des règles. Alors, par exemple, dans les règles, il est absolument interdit, par exemple, à un homme juif d'épouser une femme musulmane sous peine de mort ou de bannissement. Par contre, le contraire était autorisé. Il y avait aussi la tenue vestimentaire. Mon propre arrière-grand-père continuait à porter un sarouel avec un liseré jaune pour indiquer qu'il était juif. Les juifs avaient des tenues, si vous voulez.
C'est annonciateur de la fameuse étoile. Hein.
Oui. Non, alors, mais d'un côté, c'était quand même moins dramatique que ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie et dans la France de Pétain.
En sol majeur.
Tresser la chaîne qui tenait le bateau. Tous ces liens qui ont craqué en laissant sur le quai nos berceaux. Non, je n'ai pas oublié, bien que ma vie ait changé. Mais le silence est souvent une façon d'aimer.
Secret, pays d'enfance.
Tous ces liens qui ont tressé la chaîne qui tenait le bateau, tous ces liens qui ont craqué en laissant sur le quai nos berceaux, ces paroles de la chanson d'Enrico Macias, d'un temps que les moins de 20 ans, etc. Ça vous renverse, hein, ça, Mazal Ancri?
Oui, tout à fait. Chaque fois, ça me touche. En fait, c'est cette fracture qui consiste finalement à ce que quelque part on laisse son berceau et son histoire, c'est fini, c'est une fracture extrêmement brutale. Souvent les exilés sont inconsolables, hein.
Oui.
Toutes les chansons d'exil racontent toujours cette même histoire.
Vous quittez, vous, la Tunisie en 1960, donc vous avez une dizaine d'années. Quelle est la dernière, toute dernière image que vous emportez?
Alors, c'est vraiment une image très curieuse parce que mes parents étaient vraiment des gens très modestes. En plus, ils n'avaient strictement, je vais dire rien, mais pas grand-chose, puisque mon père avait promis à ses beaux-parents que nous irions en Israël, mais il ne voulait pas y aller. Et mon grand-père lui avait demandé une preuve, et donc il lui avait donné nos plus jolis meubles pour qu'il les emporte dans leur cadre, comme on disait. Et mes parents, pour venir en France, avaient pris deux types d'objets. Les matelas, qu'on avait refait, recoudre avec de la laine de mouton, bien lavée, toute neuve, et de l'huile d'olive. De l'huile d'olive, ça paraît incroyable, mais nous sommes partis en France avec quelques bidons d'huile d'olive. Et des policiers se sont venus à la maison et ils ont fouillé dans l'huile d'olive avec des bateaux pour vérifier que nous n'emportions pas de bijoux, de pièces d'or, que nous n'avions absolument pas. De toute façon, nous n'avions pas un rond, on peut dire les choses comme ça. Là, j'avais senti que quelque chose n'allait pas se passer très très bien.
Pourquoi la France plutôt qu'Israël? Dans votre roman, celui qui fait figure de votre père, William, se sent 100% juif, écrivez-vous, mais il n'aime pas trop les religieux et leurs contraintes, manger kasher, etc. Lui, les fruits de mer, il adore ça.
Oui, tout à fait. Mon père, comme beaucoup de juifs tunisiens, c'est-à-dire très francophiles, il aimait la liberté, il en avait ras-le-bol de toutes les contraintes familiales. Il faut se marier comme ci, il faut faire comme ça, il faut avoir un chaperon. Tout ça l'énervait considérablement. Il n'était pas question de ne pas aller à la synagogue au Yom Kippour quand même. Hein.
Oui,
il fallait quand même pas exagérer. Mais ça s'arrêtait là. Il nous faisait manger du jambon en cachette pour qu'on sache que c'est bon. C'était un personnage très contrasté et merveilleux. Mais il nous disait toujours en même temps, surtout, n'oublie jamais que tu es juive, parce que si jamais tu l'oublies, des gens te le rappelleront.
Alors cet exil dans cette France nouvelle, la métropolitaine, est un choc pour vous, à plus d'un titre, au niveau des langues, des codes, des odeurs, des sons. Tiens, allumons la radio une seconde.
Thank you.
Et oui, il faut imaginer, Mazal, à Tunis, que vous écoutiez le judéo-arabe d'un certain Raoul Journeau ou d'une certaine Louisa Tounsia. Mmh. Mais arrivé à Paris, le négoce des langues, comment se passe-t-il ?
Alors, c'était compliqué. D'abord, mes parents étaient des personnes qui parlaient extrêmement bien le français. Nous étions une famille dans laquelle le livre était au-dessus de tout. On n'avait pas grand-chose, mais par contre, on achetait toujours des livres. Et arrivés en France, d'abord, ils se sont rendus compte que beaucoup de Français parlaient un français approximatif, avec de l'argot ou des contractions de mots. Donc, ils disaient, mais nous parlons beaucoup mieux le français que les Français. Ça, ils le disaient pour se rassurer, parce que évidemment, nous avions un accent terrible. Et évidemment, quand vous arrivez en France, dans la France des années 60, dans des endroits très traditionnels, et que vous parlez avec votre accent tunisien, bon, ben, c'est pas tellement apprécié.
Bien vu, on est d'accord. Non. Le français est une langue supérieure, vous devez le parler et l'écrire à la perfection. Votre avenir en dépend, l'arabe ne vous sert à rien.
Alors ça fait partie des nombreuses injonctions paradoxales que nous avons vécues et que mes parents eux-mêmes ont vécues. Donc ils nous disaient l'arabe ne vous servira à rien, donc il ne faut pas apprendre l'arabe.
Judéo-arabe.
Le judéo-arabe, parce que ma grand-mère maternelle, elle ne savait ni lire ni écrire et elle ne parlait que le judéo-arabe. Mais on se comprenait quand même. Et mes parents ne voulaient pas que nous apprenions l'arabe, mais quand ils avaient des secrets à se dire, ils ne se parlaient qu'en judéo-arabe. Quand j'y réfléchis, c'est vraiment l'incarnation de ce déchirement, si vous voulez. Et en fait, ils étaient dans une relation d'amour-haine avec cette langue. Pour moi, c'est très clair. Parce que c'était...
Ou d'amour-honte ?
Je crois que c'était plutôt amour-peur. Et en même temps, l'arabe, c'est vraiment ce qu'ils aimaient le plus. Et d'ailleurs, ma mère, la semaine dernière, elle a été fêtée pour son anniversaire par ses voisines algériennes. C'était extraordinaire à voir. On se dit, mais en fait, c'est la même famille presque.
Je viens d'une famille assimilée. En général, un juif assimilé avait quitté son judaïsme et croyait en des idéologies. Il croyait en la science. Il croyait au progrès. Un monde en progrès. Il croyait en l'homme. Et tout à coup, il a vu ce qu'était l'homme. L'homme est pire qu'un prédateur.
La voix de ce cher Aaron Appelfeld dans votre En sol majeur, Mazal, extrait du documentaire Jusqu'au dernier, la destruction des Juifs en Europe sur la chaîne Toute l'Histoire. Aaron Appelfeld, donc immense écrivain israélien, qui devra sa survie lorsqu'il était enfant pendant le nazisme à la forêt ukrainienne où il vivra caché pendant 3 ans. C'est merveilleux ce qu'il dit sur cette question de l'assimilation. D'ailleurs, vous le mettez en exergue de votre livre. Comment fait-on pour jeter un pont sur l'abîme qui sépare le désir d'assimilation et l'intense nostalgie des racines ?
Oui. Aaron Appelfeld, c'est vraiment, pour moi, une rencontre extraordinaire. Ils étaient très assimilés, les Appelfeld. Et mon père nous disait, il faut s'assimiler quand nous sommes arrivés en France. Et donc, on fait comment ?
Ça commence sur le paquebot Al-Jazeer, la question de l'assimilation, juste avec l'épluchage d'une pomme.
Oui, il nous disait que... Il fallait manger une pomme en piquant la pomme avec une fourchette et l'éplucher avec le couteau. Ça me paraissait juste impossible. Et il disait, c'est comme ça en France. Regardez comment ils font et vous faites pareil. Mais en fait, ça ne marche pas. Nous ne faisions que nous planter tous les jours.
Voilà. Et puis ces injonctions paradoxales. Oublie la Tunisie, mais reste fidèle à tes origines.
Ça.
Deviens une Française, mais reste une Juive.
Exactement. Et c'était impossible. Donc nous ne fréquentions pas les Juifs, ils n'ont pas fait comme d'autres Juifs qui sont allés se regrouper à Sarcelles. Non, nous étions dans notre banlieue à part. Et ils pensaient qu'on, comme ça, on s'intégrerait plus facilement. Mais en réalité, c'était pas possible, puisqu'ils nous demandaient tout et le contraire.
Et puis, il y avait les Français. Il y a à boire et à manger, comme dans chaque pays. Mais oui. En tout cas, il y a quelqu'un qui parle très bien des bons Français et des autres.
J'avais cette espèce d'idée, très longtemps ancrée en moi, que c'était... On a retrouvé ça au moment de l'Algérie, d'ailleurs. Que les mauvais Français, c'était les Français qui colonisaient. Mais que les bons, la vraie France, c'est de la Révolution, des droits de l'homme, de l'égalité, d'Hugo, de Voltaire, de Pascal. Eh bien, elle n'était pas comme ça. Non, et quand j'ai débarqué, oui, à 17 ans, pour aller à la Sorbonne et au droit, eh bien, j'ai eu un grand choc. Vous savez, à l'époque aussi, la fac de droit était aux mains de Le Pen et des autres. Enfin, je veux dire, ils ne faisaient pas bon, ils discutaient d'égalité ou d'antiracisme.
Sur RFI, Gisèle Halimi, avocate, mais dans cet extrait, donc au micro d'Anne Sinclair, c'était sur Antenne 2 en 1979. C'est aussi une femme juive, tunisienne, de culture française, elle le souligne, et c'est une contemporaine de votre mère, Mazal Ancri.
Gisèle Halimi a été vraiment une personne très importante dans ma vie. Quand j'ai découvert son existence, puisque je ne l'ai découverte qu'après 1968, je ne savais pas qu'elle existait auparavant, même si elle était une contemporaine de ma mère, et que probablement ma mère l'a croisée au collège ou au lycée. Mais Gisèle Halimi, elle était extraordinaire parce qu'elle vivait dans les mêmes conditions que, par exemple, ma mère ou d'autres femmes. Et elle a trouvé en elle cette force de se rebiffer.
Il faut rappeler que lorsqu'elle vivait en Tunisie, son avenir, c'était d'être mariée à 15-16 ans. Hein.
Voilà.
Et elle s'est révoltée.
Elle a fait la grève de la faim à 10 ans pour ne plus faire le lit de son frère, pour avoir le droit d'aller à l'école. Alors que, par exemple, ma mère, dont le père était un intellectuel, il trouvait qu'après le brevet, ça suffisait. Ou même le certificat d'études, pour une fille, ça suffisait. Et Gisèle Halimi donc subissait le même sort, mais se sentait beaucoup plus intelligente que ses frères. Elle ne comprenait pas qu'eux puissent aller à l'école et pas elle.
Alors en tout cas, pour votre père, il y a peut-être eu un désenchantement par rapport à cette France des Lumières qui ne correspond pas à l'idée qu'il s'en faisait. Pour les Français de France, vous nous le disiez, Mazal, il y a deux stigmates concernant votre famille. D'un côté, votre accent tunisien, votre côté arabe, quoi, et puis cette judéité. Vous êtes considérés, vous le dites comme ça, comme des cas sociaux. Mais en tout cas, ce constat fait que vous dites que vous êtes mûr, en fait, pour l'emprise.
Oui, parce que nous avions ce désir éperdu d'intégration et ça ne marchait pas. Je me suis rendu compte que ce désir de reconnaissance et d'intégration, en fait, il est complètement universel. Il n'est pas du tout lié uniquement aux personnes qui vivent un exil. Et quand il n'est pas satisfait, eh bien, il faut qu'il passe quelque part. Je suis d'abord tombée sous emprise d'un garçon. Bon, c'était assez banal à 16 ans.
Un jeune catholique ?
Ah oui, bien sûr, un jeune catholique, bien français.
Pourquoi bien sûr ?
Parce qu'il n'y avait aucun juif dans notre entourage. Donc voilà, c'était merveilleux de rentrer dans une famille d'ailleurs sympathique, où finalement, peu leur importait que je sois juif, puisque c'était une famille d'ouvriers assez engagés, et donc pour eux, il n'y avait pas de problème du moment qu'on était des prolétaires. C'était bon.
Vous allez être sous son emprise, il va s'avérer en fait d'un autoritarisme épouvantable. Racontez-nous juste votre oral de philo au bac.
Ah oui. Heureusement, j'ai une preuve tangible de cela parce que j'ai un diplôme du bac, enfin l'attestation qu'on donnait quand on avait son bac à l'époque, avant d'obtenir le diplôme. Mon papier donc ressemble à un morceau de dentelle parce que ce garçon que je fréquentais lui-même avait raté son bac. Il me disait, mais tu ne peux pas avoir ton bac et que je ne l'ai pas. Donc il l'avait pris, il l'avait déchiré en morceaux et jeté dans le caniveau. Et donc, il avait tout ramassé. Heureusement, il faisait beau ce jour-là. Le caniveau était à sec. Il a tout recollé. Donc, j'ai un bac extraordinaire.
Oui, mais ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que cet oral de Philo, vous le passez tremblante et en n'osant pas prononcer un seul mot à la question qui vous est posée. Sauf que vous tombez sur un professeur qui s'avère être une féministe. Oui. Vous lui racontez l'emprise dans laquelle vous vous retrouvez, Mazal. Et pour la peine, cette féministe vous dit « Eh bien, je te donne 16 voilà. à ton devoir. » Alors que vous n'avez à rien répondu.
Exactement. Et d'ailleurs, quand je réfléchis à cet incident, je me suis rendu compte qu'au fond, j'avais pu sortir un instant de l'emprise parce que cette personne m'a posé une question. Elle m'a dit « Mais vous ne voulez pas avoir votre bac, donc ?» Et je lui ai dit « Ben non, je ne peux pas avoir mon bac puisque mon fiancé l'a raté. » Et là, elle était furieuse. Mais en fait, il suffit quelquefois que les gens vous posent une question. Et souvent, ils n'en posent pas. Et je crois très important de poser des questions. D'ailleurs, c'est votre métier de poser des questions.
Oui, ça peut déranger, mais ça peut servir aussi. La deuxième emprise dans votre histoire à vous, Mazal Ankri, elle concerne un autre jeune homme qui fait partie d'une organisation trotskiste. Donc, vous allez vous-même être militante, une militante très, très disciplinée.
Très bonne élève.
Très bonne élève. Vous allez jusqu'à gommer tout ce qui est féminité et origine.
Ah oui.
Oui. En même temps, vous dites qu'être militante, c'était quitter justement votre condition d'étrangère.
Exactement. Puisque c'était impossible de s'intégrer dans la société officielle, il y avait une société qui se présentait à moi, qui était ce groupuscule trotskiste, qui existe toujours d'ailleurs, qui avait ses propres codes, ses règles vraiment terribles, des règles antidémocratiques envers la personne humaine, puisqu'il y avait des injonctions absolument phénoménales.
Bah lui, vous dit, cet amoureux, que vous n'aurez pas d'enfant parce que c'est incompatible avec l'organisation elle-même.
Oui, ça c'est dans le roman, je l'ai présenté comme ça, mais ce sont des choses en effet qui se disaient. Mais justement, moi je n'ai pas obéi, j'ai eu un enfant. Mais c'est ça l'emprise. Et quand je vois aujourd'hui beaucoup de jeunes qui peuvent se laisser aller à partir dans des solutions très extrêmes, moi je comprends ce qui se passe.
Les moteurs qu'il y a derrière.
Bien sûr, voilà. Et c'est très lié à mon activité aujourd'hui.
C'était vouloir s'intégrer à tout prix, quel qu'en soit le prix.
Voilà. Et vous faites partie d'un groupe. Même si c'est un groupe qui est toxique, vous en faites partie. Et c'est très difficile de s'en sortir, mais je m'en suis sortie.
Chouya chouya de Ya Raya sur RFI du côté d'un sol majeur et sans l'accent. Avec Rachida qui vous touche au cœur, Mazal Ankri.
Oui, moi ce que j'aime beaucoup dans cette chanson qu'il a exhumée, puisque c'est même pas lui qui l'a écrit.
Dahman al-Harachi.
Voilà. Et je trouve que c'est une chanson, c'est la chanson de l'exil, parce qu'au fond, elle dit l'exil, c'est l'espoir de faire quelque chose de mieux. Et en fait, ça se termine souvent par une souffrance. Et c'est une chanson qui dit, toi qui t'en vas, tu seras déçu, tu vas revenir. Mais moi, je ne peux pas en revenir un jour.
Vous revenez en écriture, en tout cas.
En écriture, en tout cas.
Si on reprend le fil de votre livre, « Trois pays pour un exil » qui paraît chez l'Harmattan, donc une histoire qui démarre sur l'invitation de la branche Hadad, installée en Israël depuis 1956. Vous allez rejoindre Tel Aviv. On est en 96, dans un contexte politique qui est difficile. Rabin a été assassiné quelques mois plus tôt et l'opération Raisin de la colère a été lancée par Israël au sud Liban. Mais vous, pour vous, Mazal, partir en Israël, c'est surtout repartir sur la réalité de l'Aliya pour cette famille que vous allez découvrir. Hein. Et ce qui vous choque notamment, il y a des choses qui vous séduisent, mais il y a une chose qui vous choque et c'est un oncle qui vous le raconte. C'est l'accueil que les Ashkénazes très très religieux réservent dans les années 50 aux Séfarades.
Oui, les religieux et ceux qui l'étaient moins, qui étaient intellectuels, enfin ceux qui dirigeaient le pays, c'était quand même l'élite ashkénaze qui dirigeait le pays. Et donc ils étaient là en premier. Il y avait très peu d'orientaux. Il y avait quelques orientaux quand même hein, qui vivaient en Israël. On appelait ça le Yishuv, ceux qui étaient toujours restés au fond. Mais c'est vrai que quand il y a eu cet exode des Juifs orientaux, ça ne s'est pas tellement bien passé. D'abord parce que je crois tout simplement que c'était l'écart entre l'Occident et l'Orient. Les orientaux étaient considérés comme des gens moins bien, plus bêtes.
Sous-éduqués,
voilà, sales. Un peu des primitifs. Oui, oui. Le mot primitif, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. C'était difficile. Alors, ce qui était le plus difficile, je pense, c'était la question de la langue. En fait, quand vous émigrez, que ce soit pour arriver en France ou en Israël ou aux États-Unis, si vous ne parlez pas la langue du pays, vous allez subir les plus grandes difficultés. Tous les immigrants le savent. Donc ceux qui sont partis dans ma famille ne connaissaient pas la langue. Mon grand-père, qui était un intellectuel, connaissait l'hébreu religieux, si vous voulez, des prières, des choses comme ça. Mais ça n'était pas très utile pour s'intégrer. Et donc ça a été très compliqué. Et ça a été aussi un grand désenchantement. Et en même temps, il disait, je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour mes enfants, pour que mes enfants puissent vivre dignement, sans se cacher, sans avoir honte d'être des Juifs, vivre normalement.
Alors ce voyage en Israël, c'est pour vous l'occasion aussi de repartir sur les traces du patriarche de la famille, votre grand-père, un certain Nathan dans le roman.
Oui, dont c'est romancé quand même. Hein,
romancé.
C'est une histoire.
Moi, je m'appuie sur ce que je lis. Mm-hmm. En tout cas, c'est un grand-père a priori dont vous ne savez pas grand-chose. Il y a un oncle que vous avez nommé Sion, qui serait donc le fils aîné de ce grand-père, qui vous raconte son histoire. Retour sur les années 1900 en Tunisie, à Sfax, ville portuaire, où les pêcheurs étalent oursins et poissons sur des filets. Les rues à l'époque sont éclairées au pétrole, ce qui n'empêche nullement le jeune Nathan, soir et matin, de vouloir lire, étudier, contre l'avis de son père cordonnier. Loin des taloches paternelles, Nathan deviendra chroniqueur, puis journaliste local.
Je suis un juif arabe, aimait-il à proclamer crânement, mettant sans complexe en avant ses origines orientales, berbères et libyennes. Alors que bon nombre de ses pères préféraient se draper dans des racines italo-andalouses occidentales, qu'ils croyaient plus élégantes, plus civilisées. Ce snobisme et cette honte de leurs origines sémites insupportaient Nathan. Lui en faisait au contraire un titre de gloire. Il s'en flattait avec son charme insolent et devint populaire parmi les jeunes sfaxiens, toutes religions confondues, en redonnant de la fierté à tous. On m'a rapporté combien il aimait raconter que la présence des Juifs sur le territoire de la Tunisie actuelle remontait à Jules César, et même selon certains historiens à l'Antiquité. à Djerba, la synagogue de la Griba, supposée détenir des pierres sauvées de la destruction du temple de Salomon, était devenue un lieu de pèlerinage.
Alors non seulement Mazal Ancri, ce Nathan, votre grand-père, va devenir un bon journaliste, très érudit, proche des Arabes, à tel point qu'un jour, son cœur jette son dévolu pour une certaine Kouka, dans votre roman.
Dans mon roman, oui.
Voilà. Alors dites-nous, quel est ce personnage incroyable, cette femme incroyable. Alors,
moi, j'adore ce personnage de Kouka parce que c'est un personnage très emblématique des femmes tunisiennes. La Tunisie est un pays qui a vu éclore des destins de femmes féministes depuis le début du XXe siècle. Par exemple, la chanteuse et actrice Habiba Msika,
qu'on écoute là,
voilà, était une personne absolument incroyable, qui était à la fois féministe, nationaliste dans le sens indépendantiste, adorée aussi bien des Arabes tunisiens que des Français catholiques qui étaient à l'époque et qui aimaient cette femme, une femme très libre, et malheureusement qui a été victime d'un féminicide.
Voilà. Alors revenons à votre grand-père peut-être, parce que, alors est-ce qu'on est dans le roman, la romance, est-ce que votre vrai grand-père est tombé amoureux d'une musulmane?
Oui, donc dans mon roman, Nathan Haddad, qui est donc d'une famille très traditionnelle juive tunisienne, rencontre une militante indépendantiste, Kouka, qui se trouve être une femme autonome financièrement pour des réseaux historiques, puisqu'elle a hérité d'une famille qui avait des moyens, et elle a fait des études, donc elle est institutrice et elle est indépendantiste, elle fait partie du Destour, puis après du Néo-Destour.
Donc le parti fondé par le jeune Bourguiba à l'époque. Voilà. Alors ils vont s'aimer et ils vont commettre l'irréparable.
Ils font quelque chose d'absolument impossible, de vivre un amour libre dans la Tunisie des années 1920-1930 entre un juif tunisien et une arabe tunisienne.
Et ils vont avoir un enfant.
Et voilà, elle va avoir un enfant. Et comme c'est une femme extrêmement libre et déterminée et qu'elle aime son Nathan, elle décide de garder l'enfant. Malheureusement, dans mon roman, Nathan ne pourra pas assumer les conséquences de ses actes, parce qu'il faut dire que les conséquences pouvaient être absolument dramatiques. Elle pouvait être lapidée, elle pouvait être tuée lui-même. Il y avait toutes les chances que ça se termine très mal. Lui-même donc renoncer à cet amour et elle décide de garder l'enfant.
Voilà, dans votre roman,
un enfant caché.
Cet enfant caché s'appelle Driss. Dans la vraie vie, est-ce que votre grand-père a eu vraiment un enfant avec cette femme musulmane qui a été un enfant caché?
Ça, mon livre est un roman, c'est pas une autobiographie, c'est pas une biographie. L'autre jour, quelqu'un de ma famille me dit, quelqu'un qui avait lu le roman me dit, quand même, j'ai eu de la peine parce que tu n'as pas dit la vérité dans ton roman. Donc, si vous voulez, je sentais que si je faisais une autobiographie, quelque chose de vraiment réel, je n'aurais que des problèmes, et je ne serais pas libre d'écrire. Donc, j'ai fait un roman, donc il y a une histoire dans laquelle je me suis à la fois inspirée de faits réels et dans laquelle j'ai brodé, inventé, peut-être rêvé de choses que j'aimerais qu'y arrivent.
Alors, dans votre roman, on va rester protégé par la fiction. Il y a tout un micmac pour cacher le fruit de cet amour interdit. Et c'est là, je dirais, que les scénaristes peuvent se rhabiller, en tout cas s'accrocher, puisque entre Nathan, qui va être exfiltré par un certain Bourguiba de Tunisie vers Israël, ensuite il y a l'aveu de cette paternité à l'enfant caché, la rencontre secrète entre les deux demi-frères, le fils aîné du grand-père et de l'enfant caché, jusqu'à Jibril, donc c'est le petit-fils, j'espère que vous prenez des notes. Hein. Dans le roman, vous le rencontrez.
Oui.
À la limite, je vais faire la question au conditionnel. Comment vous accueilleriez cet amour interdit entre un juif et une musulmane? Comment vous accueilleriez le fruit de cet amour s'il était avéré?
Ah, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, ce serait l'aboutissement d'un rêve de réunion, si vous voulez, de réconciliation. Quelque chose est possible. Des gens ont été séparés par l'histoire, des gens qui étaient des gens simples, qui vivaient d'une manière très indépendante les uns des autres, mais avec des passerelles, des moments où ils s'offraient des plats ou des séances de danse, d'entrée en transe, dans laquelle se mêlaient aussi bien des femmes juives que musulmanes sur les terrasses. Il y avait bien tous ces moments de partage.
Ce qui fout tout en l'air, c'est le politique.
Oui, ce qui fout tout en l'air, ce sont des événements qui nous dépassent. Alors, ce sont des gens simples qui sont confrontés à la grande histoire et leurs destins sont balayés.
Du coup, ce rêve que vous avez de fédérer les deux camps ennemis, juste à travers une histoire d'amour simple entre un homme et une femme, moi, elle me fait rêver aussi, cette histoire. Oui. Et donc, si on revient au fruit de cet amour interdit, votre Djibril Kateb, c'est son nom dans votre roman, il devient historien, il devient musicien, et avec sa femme qui est d'origine catholique, hein, la transgression continue, le métissage culturel continue, il s'installe en 93 en Israël, et pas n'importe où.
Son épouse a aussi rejeté la religion catholique. Leur nouvelle religion, c'est l'art. C'est la musique. Ils ont décidé de venir en Israël sur un coup de tête pour s'installer dans un endroit particulièrement sensible. À mi-chemin entre le village de Ein Hod, occupé depuis 1953 par des artistes israéliens dadaïstes, et le nouveau village Ein Hod, édifié par une famille de Palestiniens expulsés d'Ein Hod en 1948. Des gens qui n'ont jamais accepté de quitter leur terre ancestrale. T'en rends-tu compte que la mosquée d'Ein Hod a été transformée par les nouveaux maîtres des lieux israéliens en un café-restaurant? Ça m'avait énormément choquée en lisant cette information. Sais-tu, Aline, ce que disait ma mère? Dans la religion juive, le plus grand péché, c'est d'humilier l'autre. Dans un acte de résistance passive à ce sacrilège, les habitants d'Ein Hod ont construit leur propre minaret.
Alors, Mazal Ankri, avec cet extrait de Trois pays pour un exil, est-ce que ce village en Israël de Ein Hod existe bel et bien?
Absolument. Il existe et il est situé à côté de Haïfa, sur le mont Carmel.
Et donc vous rêveriez d'avoir un cousin arabe qui a du sang juif installé dans ce lieu de traits d'union?
Oui, je pense qu'il y a des traits d'union qui peuvent exister, et d'ailleurs qui ont pu exister. Vous savez que les kibbutz qui étaient en bordure de la bande de Gaza étaient pour certains des lieux de cet ordre.
Quand vous entendez le chant du muezzin, que ressentez-vous?
Alors c'est drôle que vous me posiez cette question, parce que la dernière fois où je suis allée en Israël, c'était juste avant le 7 octobre. Une personne de ma famille m'a demandé de l'accompagner pour inaugurer un magasin familial. Et il fallait absolument, avant l'inauguration du magasin, faire des rituels magiques tunisiens. Donc il fallait arriver avec du henné, des fèves, du sucre, de l'huile et une tête de poisson sanglante. Hein, et enterrer la tête de poisson à l'entrée, donc sur un trottoir en pleine ville. Hein, et puis dans le magasin, aller faire le tour et disposer tous ces signes qui protègent du mauvais œil. Donc on était en plein dans la magie tunisienne. Puis un rabbin est arrivé et a fait une prière. Et à ce moment-là, on a entendu le muezzin, parce que c'était juste à côté de la mosquée, tout près. Et donc c'était surréaliste d'entendre à la fois ce muezzin, ses prières en hébreu, et après avoir fait ses rituels magiques. Je me dis, ben voilà, c'est...
Mais ce surréalisme...
Mais moi, ça m'émeut.
Il vous parle.
Mais bien sûr, parce que moi, ce que j'aime, c'est... tisser des choses, rabouter des liens. Moi, je ne veux pas être une occidentale qui rejette son côté oriental. Je ne veux pas être une juive qui renie son côté arabe ou sémite. Je ne veux pas être ou l'un ou l'autre. Je veux être vraiment les deux. Et je trouve que c'est possible que ça se passe.
Oui.
Je ne vois pas d'autre choix, d'ailleurs. D'ailleurs, je me dis que si... on a réussi, enfin des personnes comme Simone Veil, d'autres personnes, ont réussi à rétablir des liens, des amitiés, des amours, des partenariats, des créations culturelles avec l'Allemagne après ce qui s'est passé pendant le nazisme. Tout est possible.
Bah, faut dire, je vais dire des banalités, mais... Il faut rendre les terres aux Palestiniens pour que ce pays puisse exister. Il faut assurer la sécurité des Israéliens, leur assurer qu'ils peuvent vivre en sécurité entourés des pays arabes. Il faut au bout du compte arriver à l'ouverture des frontières, c'est-à-dire la possibilité de se parler et la possibilité de se rencontrer. Voilà.
Est-ce que vous comprenez que certains vous disent, notamment parce que vous êtes Libanais, il ne va pas assez loin? Il ne choisit pas assez son camp.
Bah oui, moi je pense que je comprends, mais moi je pense qu'aujourd'hui ce qui est radical, c'est la nuance. La radicalité est devenue un truc tellement banal. Tout le monde veut être radical en choisissant un camp contre l'autre. Moi je dis que ce qui est vraiment radical aujourd'hui, c'est la nuance. La preuve est, c'est que dès que vous êtes nuancé, tout le monde vous tape dessus.
Pour l'émission En aparté sur L'Orient le jour, mais vous êtes bien sûr RFI, l'auteur-metteur en scène libanais Wajdi Mouawad, donc que vous souhaitiez entendre, Mazal Ankri.
Oui, moi j'apprécie énormément Wajdi Mouawad en tant que dramaturge, en tant qu'auteur et en tant que citoyen. Et je crois qu'il a raison. Je pense d'autant plus que je suis passée par les extrêmes, par l'extrême gauche, quand j'étais plus jeune. Et tout comme Wajdi Mouawad, je pense que c'est ça l'audace. Je refuse totalement, moi, d'être sommée de choisir entre un extrémisme de droite ou un extrémisme de gauche, entre un trumpisme ou un wokisme, comme j'ai entendu cette expression. Je ne veux pas avoir à me prononcer de cette façon-là. Non, c'est, les choses sont beaucoup plus complexes. Et ce que j'aimais bien aussi, ce que disait Wajdi Mouawad, il dit qu'il faut transformer les murs en chemin. Alors ça peut paraître une utopie, mais c'est quoi exactement le plan B ?
Au générique de cet En sol majeur consacré à Mazal Ankri, un livre paru chez l'Harmattan, « Trois pays pour un exil, un rêve de trait d'union pour le Proche-Orient ». Émission signée Thibaut Baduel, David Brockway, Yasmine Chouaki. Tout ça est à retrouver, bien sûr, vous le savez, en podcast sur Pure Radio.